Juste avant d'amorcer la chronique avec Pierre-Yves, il y a Marc qui est allé me chercher des chronos. Je vous donne ça en vrac, là. Sur les délais ce matin, 25 sud de Saint-Roch-de-Lachigan à la 640, 1 heure. La 15 sud de Saint-Jérôme à la 440, 2 heures. Hey, ça, c'est quelque chose. Il y a des déneigeuses qui sont sorties de route ce matin sur la 20 à Saint-Julie, la 104 à Saint-Luc et sur la 148 avenue des Bois à Laval. Rive-Sud, Mercier, Champlain, La Fontaine sont à peu près les pires choix, évidemment, à cause du ralentissement. C'est vraiment une heure de pointe compliquée, puis on va vous faire un survol complet dans les prochaines minutes. Bon, l'idée du salaire minimum à 15, 17 ou 18 $.
Oui, la FTQ va étudier la situation dans son congrès. Et on soulève toujours la question du salaire minimum, mais chaque fois qu'on en parle, Paul, je reçois plein de courriels. D'un côté, il y a de la haine. D'un côté, il y a des entrepreneurs. D'un côté... Et ce que ça nous montre, c'est que c'est complexe. Premièrement, tu sais, il y a la capacité d'absorption de certains types de travail. Il y a présentement des emplois au salaire minimum qui existent parce que le modèle d'affaires se peut. Je te donne un exemple. Au coin de ma rue, il y a un café. Le café se vend, disons, 4,50 $ pour un latte. Le propriétaire de la place réussit peut-être à se dégager un 30-40 000 de profit à la fin de l'année. Si son coût de main-d'œuvre augmente d'un coup, ben lui, son 40 000 va fondre et finalement, il n'y aura plus de raison d'être en affaires. Et donc, ce type de commerce-là, où le client n'acceptera pas de payer plus cher tout de suite d'un gros coup, va disparaître ou être transféré ailleurs. Donc, ça arrive. Il faut comprendre qu'il y a une transformation du marché du travail quand on fait des chocs tarifaires. Autre point, l'automatisation et l'intelligence artificielle. Tu sais, autant Dollarama que les épiceries que McDo accélèrent l'automatisation si le choc de la main-d'œuvre au niveau du coût augmente trop vite. Il y a la concurrence entre les provinces. Tu sais, tu peux pas dire 15 $ de l'heure pour toutes les provinces puis les États puis dire que c'est l'équivalent. Tu sais, au Texas, le 15 $ de l'heure, c'est pas la même réalité qu'au Québec ni qu'en Ontario. Donc, les provinces canadiennes doivent relativement se tenir dans l'augmentation progressive du coût de la vie, tu sais.
Mais je te pose une question. Tu sais, c'est vrai la technologie là que
ça va arriver pareil.
Oui, mais tu sais, dans des secteurs, là, tantôt on va parler avec les gens de l'industrie hôtelière. Là. Mm-hmm. Tu sais, à moins que tu me dises qu'on va embaucher des robots là, mais ça prend des humains dans un hôtel pour faire le travail. Là, quand t'es rendu à fermer des étages. Pas parce que tu manques de clients, c'est parce que t'as pas assez de personnel.
Ah, mais là, tu le dis, Paul. C'est que c'est pas le salaire minimum qui va encourager ça. C'est de dire, OK, t'as pas assez de personnel, donc tu vas être obligé d'augmenter la paye naturellement pour attirer les gens dans ce milieu-là. Et donc, c'est pas le salaire minimum qui va faire en sorte que l'hôtel va se remplir d'employés. C'est l'amélioration des conditions. Donc, il y a des fois aussi que ça arrive, tu sais. Pense aussi à l'ensemble des mesures fiscales, tu sais. On est vraiment en fixation sur le 15 $ de l'heure. Mais si je te donne des garderies, des écoles privées, de l'assurance salaire, que je te donne de l'allocation canadienne pour enfants, de l'allocation famille, que je te subventionne des services, que tout ça compte. Donc, tu peux pas comparer des États qui ont pas les mêmes réalités. Et même des villes, tu sais, à Valleyfield, à 15 $ de l'heure, t'es pas riche, mais t'es beaucoup moins pauvre qu'à Montréal, tu sais. Il y a aussi le client. Dans certains secteurs, le client peut payer plus, puis tu peux payer plus ton monde. Dans d'autres, non. Il y a aussi toute la notion de fiscalité. Tu sais, si le gouvernement augmente d'un coup le salaire à 17 $ de l'heure, ben il faut aussi que la fiscalité suive. C'est-à-dire que je peux pas être augmenté à 17 $ de l'heure d'un coup, mais si jamais tous tes avantages fiscaux, je les change pas de braquette, tu vas te retrouver à payer de l'impôt et au net, peut-être que tu seras pas aussi avantagé que tu penses. Et surtout, comprenons, c'est juste une question de progressivité. Jamais. Puis là, je vais dire quelque chose qui est pas le fun à entendre, hein. Mais le salaire minimum ne sortira pas les gens de la pauvreté parce que la pauvreté, c'est quelque chose qui est relatif dans l'endroit où on est. Donc, plus tu augmentes le salaire minimum, plus tu déplaces le revenu moyen, si tu veux, ou la pauvreté, si tu veux, et la référence. Et dans le fond, la pauvreté, elle est relative par rapport au prix que les gens payent puis au coût de la vie dans où on est puis les revenus des gens. Et tous les gens qui gagnent déjà en haut du salaire minimum vont aussi se déplacer par en haut. Donc, au niveau du coût de la main-d'œuvre, c'est pas juste le coût d'augmenter le salaire minimum, c'est d'augmenter tous les échelons par en haut. Est-ce qu'au bout du compte, c'est une solution magique qu'on doit faire ou progressive? C'est la question.
L'assurance invalidité, dont on parle pas beaucoup.
Non, puis je vais t'expliquer ma réalité de travailleur autonome. Moi, quand j'étais jeune, j'étais à mon affaire. Donc, quand je suis devenu travailleur autonome à 26 ans, j'ai pris une assurance invalidité en me disant, si je tombe paraplégique ou quadraplégique ou si j'ai un gros problème, je veux quand même être capable de manger. Et j'avais un gars à l'école avec qui j'étais allé qui, lui, avait eu un accident en voyage puis il était devenu moins valide, plus invalide qu'avant, disons. Et ça m'avait beaucoup sensibilisé. Et là, je payais 70$ par mois. Un moment donné, je deviens prof de cégep, j'ai une permanence. Et donc, je me dis, ben, j'ai plus besoin d'assurance invalidité, j'en ai une collective. On paye tous dans le pot, on s'en rend pas compte, mais on, tu sais, ça fait partie de nos avantages employeurs. Et donc, j'ai annulé l'assurance invalidité. Aujourd'hui, je retombe travailleur autonome. Et là, cette semaine, je me dis, coudonc, je suis juste couvert par l'UDA, mais l'Union des artistes va te couvrir tant que t'es membre de l'Union, mais surtout tant que t'as des contrats UDA pendant une période. Donc, c'est pas suffisant. Je dois me réassurer. Et là, je pensais à tous les travailleurs autonomes qui oublient cette notion-là. Ils s'assurent pour la vie bien plus vite qu'ils vont s'assurer pour l'invalidité. Pourtant, c'est si t'es dans le trouble, faut que tu puisses manger. Si t'es mort, c'est moins grave, t'es plus là. Et en parlant avec les courtiers en assurance, il y a une chose qui m'est arrivée. J'ai su que, dans le fond, les femmes payaient jusqu'à 20% plus cher que les hommes parce que elles sont plus à risque de demander de l'assurance invalidité. Donc, quand vous êtes travailleur autonome et que vous êtes une femme au lieu d'un homme, ça va vous coûter encore plus cher. Alors, mon erreur, Paul, ça a été d'annuler mon assurance invalidité quand j'étais plus jeune en me disant « j'ai une permanence ». Sans penser qu'un jour, je ne serai plus employé, tu comprends?
Bien sûr.
Tu vois que c'est une affaire difficile à
c'est
gérer.
C'est vrai que tu ne penses pas t'assurer pour ça. Tu y penses le jour où tu en aurais besoin.
Ben oui, parce que tu dis c'est bien trop cher, mais en même temps, c'est-tu plus cher payer l'assurance ou plus cher vivre dans la précarité? C'est la question.
Merci. Bonne journée, salut. Monsieur. 7h21.